Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 15 juillet 2020 et je vais poursuivre à vos côtés la petite histoire de ma vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pêche à la morue. Belle expérience que j'ai vécue en tant que jeune mousse à l'âge de 10 ans, 11 ans et 12 ans pendant mes vacances d'été. Déjà à Quiberon. Un ami de mon père, Pierre Lambert, vient un matin l'informer que le petit mousse de la Marie-Caroline avait eu les jambes coupées, coupées par les câbles qui remontent le chalut sur les plats-bords du bateau et auxquels il faut faire extrêmement attention. Face à cette catastrophe, Pierre Lambert recherche immédiatement un petit mousse, pense à mon père pour lui demander si je pouvais partir en campagne de pêche à la morue dans le canal Saint-Georges entre l'Irlande et l'Angleterre. À ce moment-là, le bateau partait du port d'Étel ou de Lorient. Chaque marin à bord, avant le départ, eh bien, remontait des vivres, remontait des bouteilles de vin, et mon père m'a accompagné à l'épicerie du coin pour m'acheter du Coca-Cola ou des jus de fruits. Ces bouteilles étaient positionnées dans mon cercueil. Alors, qu'est-ce que c'est que le cercueil, sinon que l'endroit où chacun peut dormir? Dans son cercueil, dans le cadre du carré des équipages. Mais je reviendrai là-dessus. Pour se rendre sur les lieux de pêche, il fallait 2 jours. Et jeune, petit mousse, eh bien, j'étais le seul bien portant. L'équipage, pendant cette petite traversée, eh bien, était malade. Après un séjour à terre de 15 jours. Alors en fin de compte, qu'est-ce qui se passait? Les marins partaient en mer pendant 3 semaines, pendant un mois et demi. Ils ne revenaient à leur port d'attache que lorsque les cales étaient pleines, c'est-à-dire que lorsque le bateau était à la limite de sa ligne de flottaison. Et donc, après 1 mois, disons, de campagne de pêche, il revenait à terre pendant 15 jours. Et là, au moment où il réembarquait pour le voyage suivant, eh ben, ils étaient malades. Mais malades comme des chiens. Et le seul bien portant, c'était moi. Bon, alors c'est là un moment privilégié où j'ai appris à tenir la barre, à gouverner le bateau sur le bon cap, et pour ce faire, j'étais accompagné du capitaine qui me donnait toutes ses consignes, et j'étais très fier de manœuvrer le bateau pour rejoindre son lieu de pêche. Pendant la campagne de pêche, à bord, chaque marin buvait 6 à 8 litres de vin par jour. Vous vous rendez compte, 6 à 8 litres de vin par jour. Il travaillait 16 à 20 heures par jour. Moi, j'avais mes nuits de 8 heures. Et donc, petit mousse, ma mission première était de préparer l'apéritif. Et j'étais préposé à leur servir tous les breuvages qu'ils avaient montés à bord. Toutes les 4 heures, nous remontions le filet que nous appelions le chalut, et j'étais préposé pour dénouer la cordelette qui fermait ce filet, ce chalut, et après avoir enlevé le nœud de cette grande poche, eh bien, le filet s'ouvrait et 1 à 4 tonnes de poisson se dévidaient sur le pont. C'était un moment magique, magique de voir tous ces poissons qui arrivaient encore très vivants et frétillaient sur le pont. À ce moment-là, chacun s'emparait d'un poisson pour le vider. À cette époque-là, les bateaux n'avaient pas de frigo. On ne mettait pas les poissons comme ça dans un grand frigo. Il fallait les vider. Et ces poissons, le plus souvent des cabillauds, certains étaient plus grands que moi. Et vider leurs entrailles demandait un coup de main et une certaine dextérité. J'avais un crochet dans la main gauche qui soutenait l'animal à bout de bras, avec un couteau, j'ouvrais ses entrailles pour vider la bête. Tout l'équipage était à pied d'œuvre pour vider les poissons et les ranger dans de grandes caisses en bois sur un lit de sel. Il était extrêmement important que cette opération soit bien faite parce que le poisson se conservait dans un lit de sel et bien vidé, on pouvait le garder 3 semaines, 1 mois et le rendre comestible à la criée au retour. Alors, ces poissons étaient mis dans des caisses sur des lits de sel et chacune de ces caisses était rangée à fond de cale. Une fois vidés, tous ces poissons avaient leurs abats qui traînaient pêle-mêle sur le pont en bois du navire. Et souvent, les albatros, que nos marins appelaient les grands guillous, étaient à l'affût pour récupérer tous ces abats de poissons. Ils volaient au-dessus du navire en permanence, et dès qu'ils avaient moyen de récupérer du poisson mort ou des abats, eh bien, ils piquaient bec en avant, ils plongeaient sur le pont du bateau. Et là, c'était un moment très, très étonnant, très surprenant, parce que ces grands oiseaux qui étaient affamés plongeaient bec ouvert sur le pont en bois et fichaient leur bec dans la dunette ou le gaillarde du navire. Là, il était impossible d'approcher ces oiseaux, qui avaient entre 2,50 m et 3 m d'envergure. Leur bec était fiché dans le pont en bois du bateau, un moment qui devait être extrêmement douloureux. Et là, un marin courageux prenait une hache et coupait le bec de l'oiseau qui était fiché dans le pont. Ensuite, chacun de ces oiseaux était sauvagement embroché avec un manche à balai. Et plusieurs jours, jour et nuit, ces grands guillous, ces grands albatros faisaient cerf-volant à l'arrière du bateau auquel ils étaient accrochés par une ligne. J'avais été frappé par la sauvagerie de l'équipage qui devait conjurer le sort en tuant ces grands oiseaux de mer qui suivaient loin des côtes. Tous les bateaux de pêche sans se poser. Voilà, derrière chaque bateau, eh bien, il y avait une colonie de grands guillous qui attendaient de pouvoir se nourrir. Lorsque nous remontions le chalut, certains poissons pouvaient s'en échapper et les oiseaux plongeaient de 25 mètres environ pour attraper d'un seul coup de bec les poissons qui étaient à leur disposition. Notre campagne de pêche durait environ 1 mois, le temps d'une marée, comme disent les marins-pêcheurs. Nous traînions notre chalut jour et nuit. Régulièrement, notre filet ramassait, outre du poisson, bien sûr, mais des phoques, de vieilles chaudières de bateaux toutes rouillées, voire des homards et des langoustes. Et ces crustacés étaient échangés avec de petits cargos contre des cigarettes, échange de bord à bord avec un panier qui circulait à l'aller comme au retour entre les deux navires. Après chaque accrochage du chalut au fond de l'eau, nous devions réparer le filet. C'est ce qu'on appelle le ramandage. Tout l'équipage, assis sur le pont, était affecté à cette tâche. J'ai aimé apprendre à réparer ces filets, à ramander. Il fallait faire cette opération car un chalut coûte très cher et lorsque ces mailles étaient arrachées, nous avions un seul chalut pour le remplacer. Donc il était extrêmement important de ramander ce filet pour le réparer et avant de le remettre à l'eau. La vie à bord était assez dure. Ces marins étaient courageux à l'ouvrage. L'un d'eux m'avait même raconté ses trois naufrages. C'était le plus âgé du bord. Nous nous retrouvions à ce moment-là dans le carré des équipages pour y prendre nos repas et dormir dans nos cercueils. Un beau jour, j'ai été bizuté. Ces marins ont mis un congre, qui est un grand poisson, une sorte de gros serpent, ils ont mis un congre dans mon cercueil, là où je dormais. La bête, toujours vivante, m'a fait extrêmement peur quand je me suis réveillé et que j'ai mis mes mains dessus. Je me suis emparé à ce moment-là d'une bouteille pour taper la bête, qui s'est mise à saigner, qui s'est mise à se débattre. Et les marins rigolaient à me voir assommer ce congre à coups de bouteille de Coca-Cola. Je vous dis pas l'état de mon sac de couchage. Il a fallu le laver. Et dans un moment d'inattention, j'ai vu que mon sac de couchage que je lavais sur le pont est tombé à l'eau. Et là, je voyais le bateau avancer et mon sac de couchage s'éloignait du bord. J'ai eu très peur. Très peur parce que c'était un beau sac de couchage. Mes parents m'avaient demandé d'en prendre soin. Mais encore une fois, dans mon bizutage, les marins m'avaient fait une farce. Et ce sac de couchage, qui était à l'eau, était accroché à une ligne de pêche. On a pu le remonter facilement à bord. Mais là, il a fallu frotter pour le nettoyer. Et je ne vous dis pas le temps qui était nécessaire pour le faire sécher. Ce fut une nuit difficile après, sans sac, qui était mouillé, tout salé. Et au fur et à mesure du chalutage, les cales du bateau se remplissaient. Et le navire avait atteint sa ligne de flottaison. C'était l'heure de penser au retour, qui pouvait durer 3 à 4 jours, avec des cales pleines. Un beau jour, un matin, une tempête est venue prendre et mettre à mal notre bateau. Le bateau montait sur les vagues de 10 à 12 mètres, une petite hauteur d'immeuble. Arrivé sur la crête, le chalutier piquait du nez dans le creux de la vague et nous faisions sous-marin pour quelques secondes. Moi, qui avais passé ma nuit dans le carré des équipages, je sortis de là. Un paquet de mer m'a propulsé sous le canot de sauvetage. J'ai réussi à rejoindre le poste de pilotage où tous les marins étaient rassemblés. Ah, encore une petite bêtise que j'ai faite. Accroché au pare-brise, dans le poste de pilotage, j'ai tiré une courroie. Une courroie qui a ouvert un des pare-brises du bateau. L'eau s'est engouffrée dans le poste de pilotage. Les cartes étaient trempées, ainsi que la couchette du patron, notre capitaine. Je vous dis pas l'engueulade que j'ai reçue, mais cela faisait partie du métier que j'apprenais. À l'horizon de la vue, lors de la vue des côtes françaises, tout le monde était sur le pont, tout nu, à poil. Chacun se douchait à l'eau de mer, froide. Il fallait rentrer et ne pas sentir trop mauvais tout ce poisson que nous avions manipulé pendant des jours et des jours. Lors de la descente à terre, le patron nous remit une godaille. Alors qu'est-ce que c'est que la godaille, sinon qu'un panier dans lequel il y avait du très bon poisson, des crustacés, et j'ai été fier de ramener ce première godaille à mes parents, cette partie de pêche que le patron nous avait donnée en remerciement de nos bons services. Le retour en camionnette pour déposer chaque membre de l'équipage devant chez lui ou à la buvette d'à côté était un grand moment. Nous étions tous un peu sous. Un peu sous parce que à chaque fois qu'on arrivait chez un marin, ils étaient 7 ou 8, eh bien nous devions nous arrêter chez lui pour boire un coup ou à la buvette d'à côté où il nous offrait une tournée à boire. Je ne vous dis pas dans quel état je suis revenu à la maison, mais j'étais fier de montrer cette godaille à mes parents qui se sont régalés après coup. J'ai fait 3 campagnes de pêche, toujours sur le même bateau, la Marie-Caroline. 3 étés de suite. C'était un grand moment. C'était le plus gros voyage initiatique que j'ai pu faire, celui qui m'a bouleversé le cœur et l'âme, et j'en ai toujours gardé un bon souvenir. Et ce souvenir, eh bien, j'espère que je viens de vous le transmettre et que vous avez passé un bon moment lors de mes campagnes de pêche lorsque j'avais 10, 11 et 12 ans. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon moment et merci pour ce temps passé ensemble.